Quer deixar abrir a porta?
Bonjour, comment allez-vous? Entrez, je vous en prie.
Oui, 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 pour que les personnes nous entendront de l'extérieur. Oui, j'ai tout ce qu'il faut pour être heureux. Bien. Ok, bon, ben, je crois qu'on est un peu moins nombreux que la fois dernière. Donc, on peut en profiter aussi pour que ce soit vraiment, ça permette les échanges les plus faciles et les plus simples, comme vous voudrez. Je vais faire un petit retour sur des choses qui ont été vues en premier la fois dernière, parce que vous vous rappelez que je vous avais raconté à peu près la vie de Confucius, je vous avais raconté également la situation de la Chine à l'époque, mais on n'avait quasiment pas abordé la doctrine en elle-même. Hein? Donc aujourd'hui, ben, on va essayer de voir la doctrine, sachant que ce n'est pas un système philosophique doctrinal. En fait, le confucianisme a survécu jusqu'à nos jours, de par les quelques entretiens que Confucius avait eus avec ses disciples et qui ont été pris en note, ou dont les disciples se sont rappelés après. Et ce qui se dégage essentiellement de ces entretiens, c'est la personnalité même de Confucius. Et donc c'est une personnalité qui est extrêmement, enfin, attachante, attirante même, et il y a une sorte de charisme qu'il a exercé, on pourrait dire, sur l'ensemble des Chinois qui ont réfléchi depuis son époque jusqu'à aujourd'hui. Que les gens se soient positionnés pour, contre ou quoi que ce soit, mais il n'y a personne qui a pu, en Chine et dans tout ce qui dépend du monde chinois, c'est-à-dire le Japon, la Corée, le Vietnam, il n'y a personne qui a pu en quelque sorte se positionner comme si Confucius n'avait pas existé. Même quelqu'un comme Mao Zedong, donc le leader du parti communiste chinois, a dû se positionner vis-à-vis de Confucius. Il s'est positionné contre, mais il s'est positionné. C'est vraiment quelqu'un qui, dès le début, a donné une sorte de pli à la pensée chinoise, et ensuite de quoi on n'est pas sorti de ce pli. C'est d'ailleurs pour ça, je pense, que les religions monothéistes, par exemple, ont eu peu de succès en Chine. Elles ont été importées sous différentes formes et depuis la plus haute antiquité, ce soit le christianisme, souvent c'était sous la forme de ce qu'on appelle le nestorianisme, je ne connais pas très bien, mais enfin c'est une forme de christianisme qui a existé en cette région du monde, le judaïsme et plus tard l'islam ont été importés en Chine, mais sans connaître de grand succès. Quand les jésuites, alors là donc, là on fait un bond immense dans le temps, à partir du XVIe siècle, donc, sont arrivés en Chine, ils ont également essayé de réimporter là-bas le christianisme, donc là c'était le catholicisme, et le succès était, je dirais, là aussi mitigé. Le résultat, je pense que l'une des causes de cela est liée directement à la personnalité même et au message même de Confucius, qui, d'entrée de jeu, vous allez voir, avait une sorte de philosophie très pragmatique, et qui, dès le début, a dit qu'une pensée qui essaierait d'expliquer l'origine du monde, ou la manière dont les choses se sont créées, une sorte de règle universelle et tout, dès le début, lui a dit qu'il n'y croyait pas à ce genre de choses, qui préexistaient avant lui. Donc c'est ce qui fait que la pensée chinoise, après Confucius, c'était souvent ce qu'on a qualifié une forme d'humanisme. Parce que, oui, qu'est-ce qu'il y a ? Je comprends pas. Oui, oui. Parce que d'entrée de jeu, on n'était pas du tout dans le même débat que le monothéisme ou qu'une sorte de philosophie, quelle qu'elle soit, explicative du monde. Alors, ça va être. Ah tiens, il s'est remis en veille, l'appareil. Donc pour, revoir un petit peu tout ça, sa vie, voilà. Alors je vais passer On va regarder quelques images. Je vous propose en premier pour, comment dirais-je, pour rappeler différentes choses que nous avons vues la fois dernière. Alors celle-ci, c'est Confucius qui vous souhaite la bienvenue. Et vous pouvez voir, je peux faire un peu plus grand d'ailleurs. Voilà. Je vais faire plus grand. Voilà. Et donc, bon, c'est juste, c'est un peu rigolo, d'accord. Mais c'est surtout pour vous montrer que que justement, on n'en a absolument pas fait un personnage divin. Il y a peu, parce que le confucianisme est une religion, hein, et une des pensées principales de la Chine. Je veux dire, je pense qu'il y a peu de religions qui ont représenté. Ça vient d'un livre pour enfants, mais d'un livre pieux, hein, pour les confucéens. Hein, c'est pas un truc pour se. Donc, il y a pas le même problème qu'avec les caricatures de Marie au poste ce soir. Et si vous voulez, ça, c'est une représentation pour un confucéen sympathique de Confucius. Bon, là, il a l'air spécialement rieur. Ça, c'en est une autre représentation, alors qui est également tirée d'un livre pour enfants, d'un livre de catéchisme confucéen, et où on voit effectivement, outre son nom qui est marqué ici, le maître hein, qui joue, il était très musicien. Et donc là, il joue d'un instrument qui s'appelle le chung, qui ressemble un peu au koto japonais, qui est l'ancêtre du koto japonais.
Excusez-moi, mais on comprend pas bien son visage, c'est quoi, les yeux sont
rouges. Ah, bon, en fait, il a les paupières baissées, donc ça, c'est les paupières baissées, et il a les sourcils comme ça. Et il a un chapeau de lettré sur la tête, derrière, il a les cheveux longs qui sont noués, on ne voit pas, et il porte une barbe. On va mieux le voir sur des choses plus sérieuses. Ah, alors ça c'était pour, ça c'est ce que je vous avais dit la fois dernière, c'est pour avoir une idée quand même de ce qu'était la Chine de l'époque. La Chine actuelle, c'est ça, hein. Ça va de là jusque là, et ça descend en dessous jusqu'ici, avec Taïwan qui est là, hein. Hong Kong qui est ici. La Chine de l'époque, c'est le, alors je vais sortir du zoom, avec le zoom en roman. Voilà. Voilà. Donc la Chine actuelle, la Chine de l'époque, c'est ce qui est en rouge. D'accord. Et pour avoir une idée de la taille, j'ai pu mettre hein, ici une carte du monde. Donc la France, c'est mon index. Et donc, si vous voulez, la Chine de l'époque, ça représentait. Alors, on a effectivement l'impression que c'est très petit vis-à-vis de la Chine, mais ça représentait un peu moins de deux fois la France actuelle. Et la Chine actuelle fait à peu près 14 fois la France, hein, en superficie. En nombre d'habitants, ça fait beaucoup plus. Alors voilà une image plus précise de Confucius. Là, il a à peu près 45 ans. C'est l'époque où il va accéder dans le royaume de Lou à des fonctions et où il a été ministre de la justice. On le représente toujours avec le front très bombé, vous remarquerez, et un peu dégarni. J'ai également une autre image, je vais y aller tout de suite, voilà, non, c'est pas celle-là, voilà, ça c'est Confucius en tenue de ministre de la justice, donc c'est un poste qu'il a exercé, j'aurais dû la faire plus grand, voilà, hop, voilà. Donc là on voit Confucius avec le chapeau et l'attirail de ministre de la justice. Pour revenir un petit peu auparavant, voilà, je vais enlever le zoom. Ça, je crois que c'est l'une des plus grandes statues que l'on a de Confucius, elle fait environ 5 mètres, et est dans un parc à Tokyo, au Japon. Ça nous montre que le confucianisme a été l'une des pensées principales, à la fois en Chine bien sûr, mais dans tous les pays qui ont adopté l'écriture chinoise, à savoir la Corée, le Japon et le Vietnam, parmi les pays qui existaient encore. Et les pays qui étaient déjà sous culture chinoise, comme la Mongolie par exemple. Ça c'est Confucius vers la fin de sa vie. C'est une gravure du XVIIe siècle. en train d'enseigner à ses disciples. Vous savez que dans les deux dernières années de sa vie, où il était très éprouvé, à la fois par le deuil de son fils et par le deuil de son meilleur disciple, Yen Rue, il était retourné dans son pays après 14 années d'errance, et dans son pays, il a enseigné à un certain nombre de disciples. On dit qu'au maximum, ça avait atteint à peu près 70 personnes. Et donc là, on le voit âgé, il est ici, n'est-ce pas, entouré comme un peu comme on le faisait souvent à l'époque dans les gravures chinoises. Il n'y a pas de proportion entre les personnages. C'est-à-dire que vous avez le personnage Confucius lui-même qui vous paraît, alors certes, il n'est pas un homme qui était assez grand et assez costaud, hein. Heureusement pour lui d'ailleurs, parce que quand on voit tous les kilomètres qu'il a fait à pied à partir de sa 45e année, il a parcouru toute la Chine dans tous les sens, c'est lui qui faut une bonne constitution. Mais là, effectivement, on se rend compte que la proportion n'est pas respectée, mais c'est le propre de l'art chinois de cette époque, entre un personnage, par exemple, qui est au premier plan, comme ce personnage-là, et Confucius qui paraît beaucoup plus grand. C'est une assez belle représentation, hein, je trouve. Alors ça, celle-ci, je l'aime beaucoup. C'est du 18e siècle japonais. Donc c'est une représentation qui est faite par un peintre qui s'appelle Kano, et ça montre bien le Confucius, comment dirais-je, à la fois réfléchi et souvent assez sombre, d'accord. En ce sens où donc c'est l'époque où il a énormément erré dans toute la Chine avec quelques disciples autour de lui, dans l'espoir de trouver un prince qui emploierait ou lui ou ses disciples pour leur sagesse et pour arriver à construire le pays qu'il voulait construire, car c'est un homme qui a toujours voulu avoir une vie qu'on qualifierait aujourd'hui de politique, et qui a échoué quand même dans la plupart des choses qu'il a entreprises. Et donc là, on voit bien ce personnage très méditatif et quand même déjà très marqué par la vie. On voit les rides sur le front, on voit le regard assez perdu, et on voit que là, il est en plein air, c'est-à-dire que donc il médite sur une espèce de, je ne sais pas ce que c'est exactement, de véranda, là, comme ça, avec un arbre derrière et tout. Et donc, ça, c'est avec ses chaussures qui sont posées devant lui. Celle-là, je vous l'avais montré. Bon, là, on passe. Alors, je vais vous montrer une autre image pour revenir ensuite. Voilà. Et ça, c'est également par Kano, le même peintre. C'est son disciple favori, Yen Rue, donc qui était mort avant Confucius, et qui était pour lui la cause d'une grande douleur. Alors, on va revenir aux images de temple que j'avais trouvées. Je crois que c'est un peu, voilà. Alors, ça, c'est un temple au Japon. On le reconnaît, le fait que ce soit un temple japonais, au fait qu'il y a des lycéennes japonaises qui sont en train de monter avec leur habit marin. Et je crois que c'est à Nagasaki, hein, si mes souvenirs sont justes. On trouve au Japon plusieurs très très beaux temples confucéens comme ceci, hein, avec les tuiles vernissées, les piliers en lattes rouges, etc. Bon, ça ressemble beaucoup au temple bouddhique, donc c'est le modèle architectural chinois. Souvent, ces temples... Comment ?
Les
lycéennes
japonais peuvent visiter un temple chinois.
Oui, tout à fait. Tout à fait, oui. Et, ouais, mais là, elles ont quand même leur cartable et tout ça, si on va pousser plus loin. Mais, donc, souvent ces temples sont des constructions architecturales très importantes, parce que ce n'est pas un seul bâtiment. Moi, les plus grands que j'ai visités, enfin, ce n'est pas des choses confucéennes, c'était tous les temples bouddhiques. Là, c'est parfois des qui sont aussi grands qu'une ville. Il y a beaucoup de bâtiments, séparés entre eux par différents jardins, etc. Mais ça, c'est déjà un ensemble architectural imposant. Il y a plusieurs bâtiments qu'on voit un peu. Là, j'ai une autre photo qui est un temple qui est connu, qui est à Taipei, en Chine nationaliste. Alors là, ils ont réussi à prendre tant que personne, hein, dedans. Et ce qui est très beau dans cette architecture chinoise, c'est, contrairement à cette architecture japonaise, c'est le mélange de la pierre et du bois. Dans l'architecture japonaise, tout est en bois, en général laqué et très travaillé, hein, si je reviens en arrière, même si on parle un peu de notre sujet, vous voyez, donc tout ça c'est du bois, hein. Bon, à part les tuiles évidemment. Alors que dans l'architecture chinoise, souvent vous avez
des degrés comme ça qui sont en pierre et une base qui est en pierre. Et si on passe en Corée, la pierre est encore plus présente. Il y a toujours le bois avec des couleurs toujours très vives. Alors ces temples, ce qu'il faut bien voir, c'est qu'en fait, bon là on sort peut-être un peu de mon sujet, mais on a toujours l'impression qu'ils sont tout neufs. Même quand vous visitez le temple qui a plus de 1000 ans, il est toujours tout neuf, parce qu'en fait le bois pourrit. Et donc tout le bois pourri, même laqué, bon ça tient je ne sais pas combien de temps, mais 150 ans et quoi, mais ça tient beaucoup moins que la pierre. Donc il faut sans cesse être en train ou bien de le relaquer ou bien de changer des morceaux de bois. Donc le temple est toujours dans un état impeccable parce qu'il se constitue de pièces détachées finalement. Sauf les temples qui eux ne sont plus entretenus et où là on voit effectivement des choses qui tombent un peu en ruine. Mais ce n'est pas le cas de ce que je vous ai montré. Et ça donc c'est la dernière photographie, c'est à Chufu, c'est la tombe de Confucius qui existe encore aujourd'hui dans son village natal, dans un assez bel environnement dans la région chinoise du Shandong. Je crois que j'ai à peu près tout fait. Voilà, et voilà, ça s'arrête là. Donc, ça nous a permis, en voyant ces images, de revoir un petit peu tout ce qu'on avait fait la fois dernière, enfin de survoler rapidement. Et maintenant, si vous voulez bien, donc on va aborder la pensée de Confucius. Et vous allez voir, comme vous dites, que ce n'est pas une pensée forcément philosophiquement construite comme nous on l'imaginerait, mais que c'est quand même un système qui a permis de structurer l'âme chinoise. Alors, tout ce que nous savons de Confucius vient, comme je vous l'ai dit, de ce qui a été noté par ses disciples, notamment dans un livre qui s'appelle Les Entretiens. Il y a plusieurs traductions qui existent en français. À la fin, je vous donnerai une petite bibliographie. Alors, dedans, dans ce livre, c'est vraiment des dialogues. Des dialogues qui sont restés extrêmement vivants, même si parfois il nous manque un petit peu les bases pour le comprendre, entre Confucius et ses disciples, et souvent les mêmes disciples. Alors, j'ai essayé de dégager, alors je ne prétends pas du tout épuiser le sujet, loin de là, mais j'ai essayé de dégager quelques aspects qui semblent importants de la pensée confucéenne, et je vais vous le dire, et ensuite de quoi, on verra quelques citations des entretiens de Confucius qui nous permettront peut-être de vous faire une meilleure idée. Alors, l'un des premiers principes importants qu'on trouve dans la pensée confucéenne, c'est ce que je traduis par l'humanité et ce qu'on appelle en chinois le yuan. Alors, le yuan en chinois, donc s'écrit comme ça, la transcription R-E-N, jeune, et ça s'écrit comme ceci. Voici le caractère en question. Alors, un caractère chinois, donc ça fait partie des caractères, je dirais, vraiment fondamentaux et de base, et il se compose de deux parties. Une partie gauche et une partie droite. La partie gauche est ce qu'on appelle la clé. Je vais l'entourer ici d'une autre couleur. C'est cette partie-là, d'accord? Cette partie-là, la clé, est-ce que c'est quelqu'un? Est-ce que c'est parmi ceux qui font chasser à mes cours que j'ai donné l'an dernier? Est-ce que quelqu'un se rappelle? Oui, tout à fait. Donc, cette partie-là, en fait, quand on l'écrit, non pas sous forme de clé, mais en tant que caractère, c'est le caractère qui signifie l'homme et qui s'écrit comme ceci en chinois. Et qui, à la base, montre un homme qui avance à grands pas. D'accord? Donc, l'idée que l'on a... Je dis un homme, mais c'est un homme ou une femme, c'est le genre humain. Hein, parce que l'homme masculin, ça s'écrit encore autrement. Et donc, l'idée que l'on a de l'homme... dans l'écriture chinoise, et c'est l'écriture qui a, comment dirais-je, qui a structuré la pensée chinoise, l'homme, c'est celui qui avance à grands pas. Donc le voici, notre homme. Alors ce qu'il faut bien voir, si vous voulez, c'est que pour les Chinois, lorsque on a l'étymologie d'un caractère, alors souvent ces étymologies sont un peu supposées, hein, on ne sait pas pour tous les caractères l'étymologie, mais quand on a l'étymologie, tout le monde voit bien ou pas mon caractère, parce que le tableau est un peu bas. Ça va à peu près? Merci.
un homme qui avance, il est en mouvement. Il n'est pas statique. Et donc, dans quand vous connaissez l'étymologie d'un idéogramme chinois, vous connaissez le sens, et ce sens, vous le connaissez, je dirais, d'une certaine manière, jusqu'à maintenant. Parce que la différence avec nos langues, c'est que ici, si je vous dis l'étymologie d'un mot français, mettons, ce serait un mot en général, un mot latin ou un mot grec, dans la plupart des cas. Et donc, je dirais, ce mot latin veut dire ceci, d'accord, veut dire ça, d'accord. Et on verra comment le sens s'est un peu transformé au fil du temps. Mais ce mot latin, le problème, c'est que lui-même, il avait une étymologie. Quand vous arrivez dans des dictionnaires étymologiques et importants comme le Littré, vous pouvez remonter pour certains mots latins jusqu'à l'étymologie sanskrit, par exemple, ou d'autres langues très anciennes. Mais si vous voulez, nous, quand on regarde l'étymologie d'un mot, c'est sans fin. Parce qu'à un moment donné, on va arriver à quelque chose où on ne sait pas, et pour la plupart des mots, on ne va pas plus loin que le latin ou le grec. Alors que pour les Chinois, une fois que vous savez l'étymologie, eh bien, avant ce caractère-là, avant le caractère, pour désigner ça, il n'y avait rien, il n'y avait pas d'écriture. Il y avait uniquement de l'oral, mais il n'y avait pas d'écriture. Donc, si vous voulez, quand en chinois, on connaît l'étymologie d'un mot, alors attention, elles ne sont pas toujours très justes, cette étymologie. Dans beaucoup de cas, elles sont encore assez justes, hein, parce que justement, c'est les savants confucéens qui ont commencé, dès le 5e siècle avant Jésus-Christ, à consigner ça dans des formes de dictionnaire. Parce que pour lui, c'était très important que les mots aient un sens, et que ce sens ne varie pas. Et donc, quand en chinois vous avez l'étymologie d'un mot, eh bien, avant, il n'y avait rien. C'est une pensée à laquelle nous, on n'est absolument pas du tout habitués. Vous voyez ce que je veux dire ?
Elle n'est pas traversée par des mots.
Non. C'est une langue qui a gardé son unité jusqu'à aujourd'hui. Ce qui fait qu'aujourd'hui, les gens peuvent lire Confucius dans le texte sans être des grands érudits. Ici, il n'y a pas grand monde qui puisse lire un truc de moi 6 siècles avant Jésus-Christ sans être un très grand érudit. Même lire Montaigne, dans le texte, on commet beaucoup d'erreurs et il y a beaucoup de phrases simplement des débuts français actuels qu'on ne comprend pas. Et Montaigne, c'était il n'y a pas si longtemps que ça, c'était il y a 5 siècles. Hein. Non. C'est la culture. C'est la culture de ce peuple. Hein. C'est pas le... Alors, la situation géographique, en fait, je voudrais répondre du nom de manière catégorique, mais je n'en sais rien. Parce que je n'ai pas l'idée de ce qu'aurait été la Chine si elle avait été située ailleurs. Mais ce qu'on voit au moins, c'est que pour d'autres pays qui ont adopté la culture chinoise, par exemple le Vietnam, ou le Japon ou la Corée, eh ben, dans le dictionnaire japonais, ben, vous trouvez également ce caractère. Il se prononce autrement et l'étymologie est forcément la même qu'en Chine.
Il n'y avait pas d'écriture en Confucius ?
Non. Non, non, c'est pas ce que je dis. Non, Confucius a, comment dirais-je, a fixé, on dit, hein, je ne sais pas si c'est légendaire, mais les classiques chinois, les classiques de la poésie chinoise ancienne. Et les premiers exemples d'écriture, je crois, en Chine, remontent un peu plus de 20 siècles avant Jésus-Christ. Ce qui fait qu'on déchiffre encore actuellement sans, j'allais dire sans trop de difficultés, c'est pas vrai, parce que c'est quand même des langues anciennes, hein. Mais on peut déchiffrer encore actuellement des choses, par exemple, qui sont gravées sur des urnes funéraires ou des choses comme ça. On peut à peu près déchiffrer. Hein. Et je pense qu'il y a beaucoup moins de chances de contresens, d'une certaine manière. Alors, on va revenir à cette notion d'humanité qui est fondamentale pour Confucius. Donc, comme on le voit ici, l'humanité se compose de la clé, ce qu'on appelle la clé ou le radical de l'homme. Et à côté, vous avez ce signe-là, qui est très simple, et qui signifie « 2 ». Le 1, c'est juste un trait, et donc le 2, c'est deux traits. Alors donc, pour cette notion de l'humanité, on voit qu'on a l'assemblage entre un homme et le chiffre 2. Et ça, dans la pensée confucéenne, c'est quelque chose qui est fondamental. C'est-à-dire qu'il y a l'idée que l'humanité qui est en moi, ou en chacun, ou en chacun d'entre nous, n'est pas quelque chose qui est, comment dirais-je, consubstantiel à la personne. Je ne suis pas un homme parce que j'ai un code génétique comme ça, parce que j'ai deux bras, deux jambes, etc. Une tête et tout le reste. Je suis un homme uniquement si je peux rencontrer d'autres hommes. C'est assez étonnant comme idée. C'est-à-dire que il n'y a pas dans le confucianisme, il n'y a pas de vérité du sujet en tant que tel. Le sujet isolé n'existe pas. Confucius n'en a jamais rencontré. L'homme, en tant que tel, ne peut exister que dans sa relation avec d'autres êtres humains. Et de par sa relation avec d'autres êtres humains, il peut ou développer l'humanité qui est en lui, ou alors, si cette relation se passe moyennement, faire régresser l'humanité qui est en lui. On va en parler après. Peut-être pas sous l'angle de la nature, parce que Confucius n'est pas énormément un penseur de la nature. Sans doute parce que c'est une époque où la nature était très belle. Hein. Le rapport, on va y venir après, mais avec le monde extérieur et avec le monde de la société des hommes.
Oui. Il y a donc obligation à réussir sa relation avec
les
hommes.
Oui.
Sinon,
on n'est pas un humain. On est un infra-humain. Enfin bon, je le dis en mot moderne. Hein.
C'est terrible.
Oui, parce que... Oui, c'est terrible. C'est terrible. Mais en même temps, on pense que cette notion de l'humanité, quand je dis humanité, c'est une traduction qui est extrêmement approximative. On n'a pas de mot français qui... Enfin, moi, je n'ai pas encore trouvé, hein, si vous en trouvez, il faut me le dire, qui correspondent à ce mot chinois de jeune. Parce que, ici, quand on dit l'humanité, on a l'impression que c'est le genre humain. Mais ce n'est pas ça. C'est la qualité d'humain qui est en moi. D'accord ? La qualité d'humain que nous partageons. Et dans certaines traductions, vous trouvez bénévolence. Le fait de vouloir le bien, vous voyez, là, on s'éloigne complètement comme registre. Ou mansuétude aussi, vous trouvez, ou je ne me rappelle plus exactement quoi. Mais, non, comment ? Bravitude, voilà. Donc, à propos de l'humanitude, oui. Donc, si vous voulez, on y reviendra tout à l'heure vis-à-vis de la culture, c'est-à-dire que cette relation qui existe entre d'autres hommes, d'autres humains et nous, ne peut se faire qu'à travers un médium qui s'appelle la culture. C'est-à-dire que ce n'est que par le médium de la culture que j'arriverai à partager avec d'autres hommes et à développer l'humanité qui est en moi. Et donc, Confucius s'est attaché toute sa vie à développer cette humanité qui est en lui. Et je pense que c'est pour ça qu'il a été tellement présent par la suite, parce que finalement c'était normal qu'un homme qui passe toute sa vie, et avec l'intelligence et les dons qui étaient les siens, à développer l'humanité qui est en lui, devient immédiatement très proche de tous les hommes. Même si d'un point de vue philosophique, on pourrait dire qu'il ne leur apporte pas énormément de choses, contrairement aux penseurs tels que nous on les voit. Donc, cette notion d'humanité, on reviendra dans les choix de texte que j'ai amené par la suite, gardez-la présente à l'esprit, parce que c'est quelque chose qui est vraiment fondamental dans la pensée confucéenne. C'est-à-dire qu'on n'est pas un homme parce qu'on est en tant qu'homme. L'homme est toujours quelque chose à former. Et former l'homme, c'est développer l'humanité qui est en lui. Et développer l'humanité qui est en lui, c'est quelque chose qui ne peut se faire que par la culture et par les rites. C'est quelque chose qui, pour les Confucéens, est très important. C'est-à-dire que ce n'est pas du tout une démarche uniquement introspective. Ah bon, voyons voir quel genre d'homme suis-je au bout du compte, etc. Connais-toi toi-même et tout ça. Ce n'est pas du tout la pensée confucéenne. La pensée confucéenne, c'est que le vase fait le contenu. C'est-à-dire que je vais devenir un certain homme en suivant certaines formes de rites, et par ces rites, il y a des qualités que je vais développer en moi. Oui, toujours. Ces rites font que je les partage avec d'autres gens dans la société. Alors, gardons à l'esprit, donc j'ai essayé, oui, comme ça, de dégager certains points phares, parce que c'est impossible de voir toute la pensée confucéenne en une heure et demie. Alors, une autre idée de Confucius, c'est ce que j'ai appelé l'interaction générale. Donc, et le décret du ciel. Alors, dans l'enseignement de Confucius, on nous montre un personnage qui est fin, qui est intelligent, et qui veut remettre en pratique les codes d'empereurs mythiques ou de rois mythiques qui ont vécu en Chine, pour rectifier les manières de penser de ses contemporains. Alors pour Confucius, cette notion du souverain est quelque chose qui est extrêmement important. Donc lui-même a essayé à plusieurs reprises d'être le conseiller, il a même été jusqu'à être ministre de la justice pour des rois dont il pensait que ces gens-là avaient une certaine sagesse, et ça a plus ou moins bien marché, plutôt mal, mais pour lui, le rôle du roi dans un pays est quelque chose qui est fondamental. Donc on n'est pas du tout dans une pensée, démocratique ou quelque chose comme ça. Hein. Alors, pour bien comprendre, je vais vous écrire le caractère roi, qui se prononce en chinois Wang, et qui est également un caractère de base, et qui s'écrit comme ceci. Donc c'est très simple, hein. C'est une sorte de croix avec une barre en haut, une barre en bas, d'accord? Alors, ce caractère Wang, en fait, l'origine est ce caractère-là, qui est la même chose mais sans la barre en haut. Enfin, je dessine pas très bien, mais je peux bien passer. Normalement, c'est sympa en haut de ça. Et qui signifie la terre. La terre, c'est-à-dire le... Bon, à l'époque, il n'y a pas l'idée d'une planète comme la Terre, mais le sol. Vraiment la terre qui porte les êtres. D'accord? La barre au-dessus, qu'on met ici, signifie ce qui est partout au-dessus de la terre, à savoir le ciel. Donc dans la pensée chinoise antique, il y a l'idée, ça on le retrouvera notamment dans le taoïsme, c'est-à-dire qu'il y a ce qu'on appelle un décret céleste, qui a une voix du ciel. Alors pour nous, c'est des principes vraiment très, très étrangers à notre pensée. C'est-à-dire qu'on dit, le ciel, agit sans parler, agit sans rien manifester, mais pourtant tout se passe sur terre. Peut-être la vue que les gens avaient dans le temps de la pluie qui permet des récoltes, qui permet différentes choses, il y a une sorte de voix du ciel, qui est une voix qui est souveraine, une voix céleste. Alors souvent, ce qui est lié à l'idée de ciel, c'est ce qui est supra-humain, dans toute la pensée asiatique, que ce soit dans le confucianisme ou même dans le bouddhisme, par exemple. C'est ce qui met en fonction des forces qui dépassent complètement les capacités humaines, les forces humaines. Et donc, le roi, donc, qui est à la fois la jonction de la terre et du ciel, est le pivot, doit être le pivot entre l'ordre céleste et l'ordre terrestre. C'est-à-dire que, faute de bons dirigeants, il n'y a plus de pivot entre le ciel et la terre, et dans ce cas-là, le ciel, lui, il va sa course, hein, et la terre, elle va également sa course, et les choses se passent dans le désordre. Et donc, pour Confucius, le rôle du roi, c'est-à-dire qu'il était souvent un rôle que nous, on jugerait symbolique. Par exemple, c'était lui qui traçait, qui commençait le premier sillon, et on pensait qu'ensuite, la perpétuation de ce sillon allait donner toutes les récoltes du pays. Et donc, il y avait un temple où le roi avait une sorte de, je ne sais pas comment c'était, une charrue ou quoi que ce soit, et il faisait un premier sillon, et à partir de là, tout le monde commençait à faire des sillons pour nourrir les champs. Il y avait donc le roi, par exemple, je ne sais plus exactement, mais avait différentes pièces dans son palais, et suivant les saisons, il changeait de pièce. Hein, c'est pas comme Staline qui changeait de chambre tous les soirs de candidature, on était tous dans la même problématique. Mais le roi, un peu comme le mouvement des astres ou du soleil, dans le ciel, avait un rôle, on pourrait dire, liturgique. C'est-à-dire qu'il incarnait quelque chose et il devait s'entourer des meilleurs conseillers, qui seraient les gens qui seraient à même de gérer le pays. Et si le roi... Oui. Oui, par exemple, mais il ne rendait pas la justice non plus. Ça, c'est vraiment dévolu aux juges et à des gens qui s'occupaient, on pourrait dire, des basses besognes, parce que Le roi, théoriquement, ne devait pas faire usage de violence, alors que la justice implique le fait de faire forcément mener usage de violence sur certains. Et donc, le roi a un rôle qui est fondamental, il doit unir le ciel et la terre, et s'entourer de bons conseillers. C'est pour ça que si le peuple connaît du malheur, que ça marche mal, qu'il y a des guerres civiles, qu'il y a différentes choses qui se passent mal, En Chine, on pense toujours que c'est la faute des dirigeants. Oui, oui, non, non, mais c'est pas faux, c'est sûr. Mais le... comment dirais-je? Alors que ici, par exemple, on pense souvent qu'on a le dirigeant qu'on mérite. Ça existe hein, dans la sagesse populaire, ça existe ce genre de choses. Oui, oui, ah, c'est pas la même chose, là, il y a quand même beaucoup de choses qui ne sont pas.
Oui. Là, on parle de...
Il y a pas, la notion de Dieu n'est pas du tout la même, si vous voulez. Donc,
non,
moi,
c'est,
oui.
Quand même, parce que vous parlez de l'être, je crois, c'est pareil, finalement. C'est en train de construire, même si peut-être
oui.
Ça se traduirait de la même manière.
Si vous voulez. Mais moi, ce que je pense, et je ne suis pas le seul, là, beaucoup de sinologues pensent la même chose, c'est que si vous voulez comprendre la civilisation chinoise, il faut faire abstraction de la civilisation d'ici. Après, quand vous aurez bien compris, vous pourrez rapprocher l'une de l'autre. Mais dans un premier temps, il vaut mieux qu'on accepte, alors je comprends que c'est quelque chose de frustrant, mais de ne pas faire de trop de parallèles. Sans ça, je veux dire, vous aurez toujours une vue qui est assez faussée. Moi, justement, c'est ce que je remarque dans la vue qu'on a de la pensée chinoise, qu'on lit des bouquins du 19e siècle, qui ont été écrits par des gens d'ici qui ont voyagé et tout. Finalement, c'est toujours des fantasmes européens qui balancent sur la Chine. C'est-à-dire qu'ils n'arrivent pas à se défaire de la pensée occidentale pour aborder la pensée orientale. Donc je pense que la pensée occidentale, oui, on n'arrivera pas à s'en défaire, mais par contre on peut faire l'acte de volonté qui est de, pour l'instant, de séparer les deux. Si j'apprends, je sais pas, n'importe quoi, les mathématiques, la musique ou ce que vous voudrez, je peux pas, au début je vais faire des gammes, je peux pas raisonner, je peux pas faire ça d'un point de vue philosophique. C'est uniquement quand je serai très bien joué que je pourrai exprimer des sentiments ou des choses comme ça lorsque je joue. Mais au début, je vais avoir besoin de m'appliquer à comprendre quelque chose que je ne sais pas encore. Et c'est cette démarche, si vous voulez, qui permet de comprendre la pensée chinoise et de comprendre justement dans ce rôle du roi et du lien qu'il y a entre le roi et le peuple, le fait que s'il y a des choses qui se passent mal au niveau du peuple, on pense que c'est dû en premier aux agissements du roi. C'est-à-dire que le roi doit en premier cultiver sa propre vertu. Se devenir un homme dont la vertu est extrêmement forte. Et ensuite, vu qu'il n'y a pas de différence pour Confucius, enfin, il n'y a pas de barrière entre les différents ordres, que ce soit l'ordre naturel, l'ordre de la société des hommes, l'ordre de l'homme individuel, de l'homme intérieur. Donc au fur et à mesure, la vertu qui est cultivée par ce roi, en cercle concentrique, gagne le pays.
Et oui.
Comment? Non. Ah. Alors, ça, c'est quelque chose qui n'a pas été vu par Confucius, mais qui a été vu par l'un de ses disciples un peu lointains, qui s'appelle Mencius, qui est arrivé à peu près 100 ans après lui, et donc dans lequel il y a l'idée que le roi reçoit ce qu'on appelle le décret céleste. C'est-à-dire qu'il y a un moment donné, il y a quelqu'un qui est investi, qui se croit investi du décret céleste. Donc dans au temps très ancien de Confucius, il y avait plusieurs pays qui formaient ce qu'on appelle, ce qui était la Chine de l'époque, et qui partageaient la même culture, et chacun, ce n'était pas encore un empire, hein, c'est ça aussi qu'il faut bien comprendre. L'empire chinois, ça serait le 2e siècle avant Jésus-Christ. Et donc on avait plusieurs pays, comme comme en Europe peut-être à la même époque, mais peut-être de taille un peu plus grande, je pense, et qui avaient chacun un roi. Ces rois étaient des gens qui étaient arrivés parce qu'ils étaient, on pourrait dire, d'extraction liée à des rois qui avaient régné auparavant et qui étaient souvent d'extraction mythique, à la fois homme et animal, ou des choses comme ça. Enfin, je ne veux pas aller trop loin, si vous êtes dans la mythologie chinoise, ce n'est pas le but d'aujourd'hui, mais ce sont des gens qui ont amené la culture, qui ont amené l'agriculture, l'écriture, des choses comme ça, les mesures. Et donc, ces rois ont eu des enfants, ont eu souvent des progénitures même assez nombreuses, et qui avaient différentes femmes, etc., et parfois des vies un peu mouvementées. Des gens ont descendu de ces rois, donc par filiation, et à un moment donné, ont pensé, alors parfois c'était également des aventuriers, hein, mais être investi de ce qu'on appelle le décret céleste. Et donc, le fait d'être investi du décret céleste, donc ces personnes pensaient qu'ils pouvaient amener, régénérer la culture. Parce qu'il y a toujours l'idée qu'il y a une usure de la culture et une usure du pouvoir. Par exemple, le caractère, le mot qui signifie révolution en chinois, Gueming, est un mot, en fait, c'est le retournement de l'ordre céleste, de l'ordre du décret céleste. Parce qu'il y a l'idée qu'à un moment donné, même une lignée commence avec des rois extrêmement vertueux, tout ce que vous voulez, mais il y a un moment donné où ça va se dégrader. Et à ce moment-là, le décret céleste sera retiré du roi dégradé qu'il y a et sera donné par le ciel, pas par les hommes, à quelqu'un d'autre. Et donc cette personne prendra le pouvoir. Ou le gars, il croira qu'il a reçu le décret céleste et essaiera de prendre le pouvoir, il n'y arrivera pas. Et les deux cas existent. Et donc c'est pour ça que quand vous voyez l'histoire de la Chine, c'est une succession de dynasties. Et donc ces dynasties, ce sont des choses qui se sont transmises, comme on dit les Tang, les Ming, les Song, etc. Donc ça porte le nom en général du fondateur de la dynastie. Et donc ces dynasties se transmettent jusqu'au moment où, théoriquement, le décret céleste serait retiré.
Le père en fils ?
Oui. Pas forcément de père en fils aîné. Les femmes également jouent un rôle important. Enfin, c'est assez complexe, hein, parce que, bon, là, on entrerait vraiment dans des phénomènes de lutte de pouvoir, en quelque sorte. Mais bon, il y a des fils principaux, des fils accessoires, etc. Alors donc, si vous voulez, avant qu'on passe à la... pour Confucius, lui... Attendez, restons ensemble. Pour Confucius, il y a une tradition, donc, justement, qui existe, qui est consigné dans les plus anciens livres, notamment dans des livres de poésie, qui sont des livres en fait qui reprennent ce qu'était la poésie, mais que vraiment des siècles et des siècles avant avaient formé par des chansons, on appelle ça les odes, les gens du peuple. Et ces choses-là ont une vertu, leur étude a une vertu qui est extrêmement importante parce qu'il remet les personnes en lien avec ce qu'étaient les émotions des hommes qui ont vécu plusieurs siècles avant eux. Et là, plusieurs siècles, bon déjà Confucius, c'est environ 6 siècles avant Jésus-Christ, plusieurs siècles avant, donc c'est vraiment des époques très anciennes de l'humanité. Et le roi, justement, doit nourrir sa vertu par l'étude de ses odes, par l'étude de la musique, par l'étude d'un certain nombre de choses, c'est également ce que doit faire le lettré, et ainsi, il arrive à une sorte de revivification des temps anciens. Confucius lui-même, d'ailleurs, ne se pose pas du tout comme un créateur. Il y a une phrase célèbre dans laquelle il dit « Je n'innove pas, je transmets ». C'est-à-dire que lui, il pense qu'il a juste à prendre, c'est une sorte, on l'a qualifié souvent d'utopiste du passé. C'est quelqu'un qui voit le passé de l'âge d'or, si vous voulez, d'une manière utopique, et qui veut remettre ce qu'il faisait dans le passé au goût du jour. Et tout ce qu'il fait, c'est sous prétexte de remettre la sagesse du passé en œuvre. Alors c'est sûr que nous maintenant, ça nous fait un peu bizarre parce que nous on pense déjà que Confucius, c'est vraiment des choses extrêmement anciennes. Ce qu'il faut bien voir, c'est qu'à son époque, c'était un moderne. Mais un moderne qui n'innovait pas. Lui, il se tient toujours du côté de la tradition. Il ne veut absolument pas du tout passer pour un innovateur. Et pour lui, aussi une chose qui est très importante, c'est la précision du langage. Parce que si les caractères, si justement les choses nous viennent du passé, si le langage évolue, comment je vais faire pour comprendre les textes anciens? Et si je ne peux pas remonter justement à l'étymologie des caractères, je ne pourrais plus comprendre pourquoi les anciens, dans tel poème, ont choisi tel ou tel mot. Vous voyez ce que je veux dire? Donc pour lui, il y a une notion que la précision du langage est quelque chose de fondamental. Et elle n'est pas seulement fondamentale pour comprendre les mots, mais elle est fondamentale pour comprendre les relations des êtres entre eux. Quand je dis de quelqu'un qu'il est le père de son fils, qu'est-ce que ça signifie dans la vie être un père? Qu'est-ce que ça signifie être un fils? Pour Confucius, c'est comme pour l'humanité, c'est pas du tout quelque chose de génétique. Je suis pas le père d'un fils parce que j'ai des enfants. Vous voyez ce que je veux dire? C'est jouer le rôle d'un père. Être un fils, c'est jouer le rôle d'un fils. Quelqu'un qui est juste être un frère, c'est quelque chose. Être un sujet d'un souverain, c'est quelque chose. Être le souverain d'un sujet, c'est quelque chose. Si le souverain ne correspond pas au mot, si le souverain n'est pas le lien entre le ciel et la terre, c'est plus un souverain. C'est un gars qui est là par hasard.
Pardon, de quoi? Oui. Oui. Non. Oui. Oui, on dit que la Chine actuelle, et la plupart des gens étaient illettrés, hein, il faut dire juste à quelles sont, hein, je veux dire, on est 6 siècles avant Jésus-Christ. Et donc, comme je vous dis, les rites sont importants, la précision du langage est importante. Par exemple, il y a une scène très importante où il y a, je ne me rappelle plus exactement, mais je n'aime plus les détails, mais à peu près comme ça pour vous donner une idée, quand Confucius, dans ses nombreuses pérégrinations, errait en Chine avec ses disciples, à un moment donné, alors je peux peut-être que je vous ai raconté la fois dernière cette anecdote, mais il y avait une femme qui était arrivée à la tête du pays en tuant son mari, je crois, en devenant l'amante de son fils, et c'était shakespearien, hein, et le pays était allé à la ruine, d'ailleurs comme tout bon confucéen aurait pu le prévoir, hein, et cette femme a voulu avoir un entretien avec Confucius, donc lui il voulait surtout pas rencontrer une personne qui aurait été l'état de perdition de l'humanité, mais je crois que des disciples ont insisté, et finalement, c'était un truc très compliqué, il a pu la rencontrer, je crois qu'il y avait une sorte de rideau, ou de paravent, ou de store, je ne sais pas quoi, entre eux. Lui, il ne voulait pas avoir affaire à elle, même de près ou de loin. Il a déclaré les règles du jeu, elle aurait le droit de la poser qu'une seule question. Et donc, elle concentre tout dans une question, et puis lui donnera la réponse. Et donc, la question qu'elle pose, elle dit, mon pays va à la ruine, et puis pour elle, d'ailleurs, ça se terminerait forcément mal, hein. Comment je peux faire pour m'en sortir? Et si vous étiez Premier ministre, qu'est-ce que vous prendriez comme première mesure pour s'en sortir? Donc elle était aux abois, cette femme. Il y avait des insurrections partout, etc. Et lui, il dit, ben, c'est bien simple, il dit, moi je redonnerai aux mots leur sens. Redonnerai aux mots leur sens. C'est-à-dire que si elle est une mère, elle doit se comporter comme une mère avec son fils. Si elle est la tête d'un pays, elle doit se comporter comme une personne qui a la tête du pays. Enfin, ça, c'est la lecture que j'en fais moi. Hein. Elle a juste ce truc qu'il faut redonner aux mots le sens. Bon, c'est pas forcément ce qu'elle attendait comme, comme bonne plaisanterie, mais donc vous voyez, donc il y a ce côté chez lui, alors souvent qui déroute complètement toujours l'interlocuteur. C'est-à-dire c'est l'homme qui va au fond des choses et qui a un temps d'avance, un temps ou plusieurs temps, je ne sais pas, sur l'interlocuteur. Cette idée, quand les gens demandent quelque chose de concret, vous seriez Premier ministre, qu'est-ce que vous faites? Vous changez le système des impôts et tout? Non. Si je suis Premier ministre, la première chose que je fais, c'est que je donne aux mots le sens qu'ils ont réellement. Et dans ce cas, le pays est géré. Oui. Alors, le rang social est également important. Donc, je vous disais pas tout à l'heure qu'il y avait le roi et ses sujets, d'une certaine manière. Mais ça se passe en fait de manière un peu plus complexe. C'est-à-dire que dès le début, et ça on le verra bien dans la formation de la pensée taoïste, la population de la Chine a été séparée entre le peuple des villes, bon, qui devait être des petites villes à l'époque, et le peuple paysan. Et donc, le peuple des villes, en général, formait une forme de noblesse, qui était la classe sociale dont Confucius lui-même était issu. D'accord ? Donc, c'est en premier le roi qui règne et qui doit influencer le peuple des villes, d'une certaine manière, qui forme une sorte d'aristocratie des lettrés. Alors, la pensée de Confucius a structuré l'ensemble de la mentalité de la Chine, comme je vous l'ai dit, mais aussi de la Corée et du Japon. Maintenant, ce que je vous propose, je ne sais pas si on aura le temps d'en voir beaucoup, mais c'est de voir quelques extraits vraiment des textes eux-mêmes de Confucius, parce que ça vous permettra, comme je vous dis, c'est pas tellement un système philosophique, et c'est quelque chose qui repose pour beaucoup sur la personnalité même de ce sage et sur la manière, surtout c'était un excellent pédagogue qu'il avait d'enseigner les personnes. Alors je ne sais pas si vous avez tous des textes de ceux qui ont été distribués la fois dernière. Faites passer pour les personnes qui n'en ont pas, servez-vous et faites passer à d'autres. Et alors, on va... On va voir justement un petit peu des choses qui vont nous permettre de voir la personnalité même de Confucius et surtout la manière qu'il avait d'enseigner. Alors donc, je laisse le temps que les feuilles se distribuent. Or, en général, les quelques petits extraits de texte qu'il y a là, j'ai essayé de traduire moi-même, parce que j'ai pas été, souvent sur ce genre de choses, je suis pas toujours entièrement satisfait des traductions existantes. Parfois, je les trouve très bonnes, et parfois je les trouve pas toujours très bonnes, enfin bon, mais je reconnais que c'est effectivement pas facile du tout, et je pense pas non plus que j'ai complètement les capacités de traduire cette langue très ancienne, mais au moins sur ces passages-là, donc les passages, le choix est complètement subjectif, hein, c'est moi qui l'ai fait tout seul, et au moins sur ces passages qui me touchent beaucoup, qui m'ont semblé importants, j'ai essayé d'arriver à quelque chose de relativement précis. Alors, je suis à la partie numéro 5 qui s'appelle « Choix de texte ». Je ne sais pas si vous y êtes, je crois que ça va être la page 3 ou 4, où il y a plusieurs textes. Alors, vous êtes content, je vous ai même mis le bilingue chinois. Et donc, le premier texte, alors souvent ça commence comme ça, le maître dit. Et donc le premier texte commence, j'ai trouvé quelques textes pour décrire un peu la personnalité de Confucius. Et le premier texte, c'est un des rares textes, c'est un petit passage, vous voyez en français ça fait 4 lignes, mais en chinois ça en fait 2, dans lequel il parle de lui-même, et là c'est un homme assez âgé, hein, qui a plus de 70 ans, je crois qu'il est mort à 72 ans, donc c'était vers la fin, qui fait le bilan et le récit de sa vie. En général, ça commence par cette phrase, le maître dit, la plupart des choses de Confucius. Et donc, je le lis. Le maître dit, à 15 ans, ma volonté s'appliquait à l'étude. À 30 ans, j'étais affermi. À 40 ans, délivré du doute. À 50 ans, je connaissais le décret du ciel. À 60 ans, mon oreille se pacifia. Et à 70 ans, en suivant les désirs de mon cœur, je n'enfreignais plus aucune règle. Donc voici le parcours de cet homme qui a été Confucius. Je vais reprendre un petit peu les choses. C'est quelqu'un qui effectivement, à 15 ans, même bien avant, on sait que dès qu'il avait 7 ans, il passait beaucoup de temps à essayer même de disposer des vases rituels ou des choses comme ça. Donc à 15 ans, il s'applique à l'étude. À 30 ans, il dit qu'il est affermi. Le caractère chinois, exactement, c'est qu'il se tient debout. Il est stable. Donc, à 30 ans, c'est un homme, déjà, qui est tout à fait stable. À 40 ans, il est délivré du doute. C'est-à-dire qu'il a sur chaque chose un jugement extrêmement lucide et qui, au moins pour lui, lui semble très sûr. À 50 ans, il connaît le décret du ciel, c'est ce dont on parlait tout à l'heure. C'est-à-dire, quelle est la volonté du ciel ? À 50 ans, il la connaissait. Alors, ce qui est amusant, c'est qu'en fait, à 50 ans, il était spécialement dans une époque comme assez trouble de sa vie, vu que finalement, il errait dans toute la partie centrale de la plaine de Chine, et suivi par quelques disciples, les pays qui traversaient étaient en guerre, etc. Mais lui, il connaissait le décret du ciel. C'est un petit peu à rapprocher, si vous voulez, de l'anecdote que je vous avais dite la fois dernière, où dans un village où Confucius, entouré par moins d'une dizaine de disciples, arrive au fil de leur errance, on le confond avec un autre personnage qui est recherché et les gens veulent le mettre à mort. Confucius écoute ça, n'est pas très intéressé par ce qui se passe. Et comme on le voyait sur le dessin tout à l'heure, il prend son luth, hein, son instrument de musique, et commence à jouer. Et là, les gens sont quand même très surpris qu'un homme qu'on va mettre à mort, il a envie de faire de la musique et tout, et lui, il ne fait pas attention à eux. Et donc les gens commencent à réviser leur jugement, et puis les disciples expliquent que c'est pas l'homme qu'on recherche, c'est Confucius, etc. Et tout. Et finalement, les gens sont un peu troublés, ils n'osent pas le tuer. Et après, il y a des disciples qui reviennent vers Confucius et qui lui disent... Très très bien le coup là de jouer de la musique, ça les a troublés, etc. Et Confucius leur explique que lui n'a absolument pas du tout fait ça exprès dans le but de les troubler. Mais Confucius, il leur dit, je suis le dépositaire de la culture des rois anciens. Je suis l'unique dépositaire. Donc si le ciel souhaitait que cette culture disparaisse, alors plus rien n'a d'importance. Donc même le fait qu'on me tue, c'est pas important. Mais le ciel ne souhaite pas que la culture disparaisse. Donc c'est normal que je reste en vie. Et donc, à ce moment-là, ce qui est normal, c'est que je fasse moi-même, fleurir, fructifier cette culture. Et il n'y a pas de meilleur moyen que de justement jouer un peu de musique. Tout le monde en conviendra. Et donc là, on voit cette notion de la personne, il est complètement sûr de lui. Il connaît le décret du ciel. À 60 ans, mon oreille se pacifia. Donc là, il faut quand même attendre 60 ans. Alors, mon oreille se pacifia, bon, ça, il y a eu beaucoup de gloses là-dessus. Le caractère chinois en lui-même signifie que l'oreille devient obéissante, que l'oreille devient, je ne sais pas comment dire, tactile, c'est pas le terme, mais est en phase avec ce qui se passe. L'oreille, c'est aussi l'entendement. Hein. Et mais
pas la réceptivité.
Alors, oui et non. Le caractère lui-même, c'est le caractère vraiment de l'oreille physique. Hein. Et donc, il y a l'idée quand même dans Confucius et dans d'autres penseurs de l'Asie, qu'en fait, on n'a pas une bonne perception. Non pas qu'on n'a pas une bonne perception parce que j'ai une mauvaise vue, j'ai besoin de lunettes ou quoi que ce soit, mais je projette dans ce que je vois des désirs qui sont en moi. Je ne suis pas obéissant à ce que je reçois de l'extérieur. À chaque fois, je suis dans une sorte de jeu manipulatoire vis-à-vis du réel et dès le phénomène perceptif. Oui. Même d'une manière c'est même pas quand on dit « on croit que c'est soi, mais c'est pas soi, c'est mes désirs qui interprètent. Moi, j'y suis pour rien. Et après, je crois que c'est moi, mais c'est pas soi, c'est des désirs qui jaillissent en soi et qui nous font transformer le réel. Alors que là, au contraire, il a une oreille qui est devenue à 60 ans. Hein, faut quand même, comme lui, il faut commencer jeune, il faut s'entraîner. Hein. Mais si vous faites ça, à 60 ans, vous pouvez avoir, comme lui, une oreille obéissante. C'est-à-dire une oreille qui est réceptrice du réel. En termes modernes. Oui, de tout ce que les mauvaises choses, etc., les désirs, etc., interprètent.
C'est-à-dire que ce que l'on entend est vrai.
Oui. Et à 70 ans, en suivant les désirs de mon cœur, là voilà justement on va parler des désirs, je n'enfreignais plus aucune règle. Alors là, il faut attendre quand même 70 ans à s'entraîner. Et donc, l'idée est quand même, je trouve, assez belle. C'est-à-dire que là, pour lui, il incarne complètement justement cette notion de la culture et des rites. À 70 ans, simplement en suivant ce que... Parce qu'on peut dire que les rites et la culture, c'est quelque chose qui, qui structure l'individu, mais qui dit structurer, dit restreindre également. Vous voyez ce que je veux dire ? Voilà, qui encadre, mais donc dans la notion d'encadrement, il peut y avoir une notion d'enfermement aussi. Mais, si on s'entraîne comme Confucius, à 70 ans, en suivant simplement, naturellement, les désirs de son cœur, on est dans le courant de ce qui se passe. On va voir que ça aussi, c'est quelque chose qu'on fera quand on suivra les taoïstes, qui est pour eux quelque chose de fondamental. C'est-à-dire, à un moment donné, arriver à avoir une sorte d'intelligence qui fait que tout naturellement, on est dans le mouvement de ce qui se passe, dans le bon mouvement.
C'est une bonne nouvelle.
Oui. Alors donc ça, c'était la personnalité de Confucius vue par lui-même. Et alors maintenant, j'ai un autre texte, celui qui vient directement après, dans lequel c'est probablement son disciple principal, nommé Yen Rui, qui est un homme très pauvre et relativement mauvaise santé, qui est mort avant Confucius, qui parle de lui, et là on voit l'attachement énorme que les disciples, ou même les gens qui avaient rencontré Confucius, avaient envers lui. Et donc je vais lire le texte. J'ai beau lever les yeux, il me paraît toujours plus élevé. J'ai beau creuser, il résiste toujours plus. Je crois le voir devant moi, et voilà qu'il est soudain derrière. Notre maître est habile à nous guider. Il nous élargit avec les livres, il nous resserre à l'aide des rites. Je voudrais m'arrêter, mais je ne puis. Mon esprit est à bout de ressources, et voilà que mon pied trouve prise, et c'est comme si je me trouvais sur les hauteurs. Je veux le suivre, mais je perds ma peine. Et donc là, on voit ce principe de la pédagogie qui était celui de Confucius, où les gens qui effectivement ont vécu avec lui à faire toutes ces errances qui ont duré des années et des années dans la plaine de Chine, ont vécu sans doute une aventure humaine hors du commun. C'est-à-dire qu'ils sont tombés sur un homme qui a été vraiment un maître, un pédagogue de très très haut niveau. Et là, on le voit bien, hein, parce qu'au début, ça commence avec quelque chose qui évoque le respect. J'ai beau lever les yeux, il me paraît toujours plus élevé. Vous voyez ce que je veux dire ? Donc là, on est dans l'ordre de ce qui est respectueux. Mais après, ça commence à changer un peu. J'ai beau creuser, il résiste toujours plus. Et là, on voit qu'on est sorti de la notion strictement de respect. C'est-à-dire que cette personne vivait avec Confucius. Il faisait partie des 3-4 qui étaient tout le temps avec lui et qui, au fur et à mesure, voyait la manière dont il réagissait aux événements, l'enseignement qu'il donnait. Et donc, il y a cette idée que, vis-à-vis de tout ce qu'ils vivent dans la journée, il faut creuser ces expériences. Mais il a beau creuser, et pourtant c'est un homme extrêmement intelligent, Ayn Rand. Il a beau creuser, il y a quelque chose toujours qui résiste. Il n'arrive pas à interpréter le personnage de Confucius. Je crois le voir devant moi, et voilà qu'il est soudain derrière. Donc là, c'est le côté quand même très impossible à prévoir. On le voit quand il répond aux gens. Alors, il y a souvent, ça a été dit, et on le verra pour les, encore plus peut-être pour les penseurs taoïstes, il y a une manière de déstabiliser l'interlocuteur. L'interlocuteur se raccroche à des choses, et on voit par exemple des gens qui ont rencontré Confucius, ou c'est un grand maître taoïste, ils ressortent mais complètement hagards. Et on pense que, maintenant on pense que dans cette manière de, comment dirais-je, de déstabiliser l'interlocuteur, c'est pas juste pour lui faire une blague, mais c'est à des fins, on pourrait dire, pratiquement hypnotique. C'est-à-dire que le but, la personne il arrive avec ses problèmes, avec ses trucs, il a une question, il sait qu'il va rencontrer un grand sage, il a préparé ça pendant 2 semaines chez lui, il arrive avec la question du siècle, etc. Et rien que par la question, on sait que l'essentiel n'est pas là. Et donc, ce qu'il faut, c'est immédiatement pouvoir lui retirer le tapis sous les pieds, et que la personne, d'un coup, il s'éveille à quelque chose. Ça dépend de chaque personne. Il peut être dans l'intellectualisation, il peut être au contraire un terre-à-terre le plus, etc., etc. Et donc, d'un coup, le but, c'est, il ne va pas rencontrer Confucius longtemps, mais il faut qu'il y ait un truc qui se passe en lui. Et donc, là, comment ? Oui, oui. Mais c'est pour ça que, moi, j'avais lu un livre, enfin, on en parlera peut-être davantage quand on verra les taoïstes, mais où il y a quand même la notion pratiquement de d'hypnose intellectuelle qui est effectuée sur les personnes. C'est-à-dire que c'est pas simplement, on débat pas de quelque chose, n'importe quoi. Les gens en sortent changés. Parce que d'un coup, ils ont vu une profondeur qui est en eux, qui ne pensaient même pas que ça existait. Et donc, on n'a pas répondu forcément à leurs problèmes, mais est-ce qu'il y avait un problème ? Et donc, là, on voit bien ce côté où, imprévisible. Je crois le voir devant moi et voir qu'il est soudain derrière. Notre maître est habile à nous guider. Donc ça, c'est vraiment sa principale qualité. C'est vraiment un enseignant. Il nous élargit avec les livres, et il nous resserre à l'aide des rites. Et donc, c'était vraiment l'action confucéenne. C'est-à-dire qu'à la fois, on élargit le bonhomme en lui amenant des connaissances, et on le recadre, on le resserre, en lui apprenant comment se comporter dans la vie. Il y a deux choses à la fois. Il faut et l'élargir et le resserrer. Juste l'élargir, on va en faire une bête de savoir. Juste le resserrer, on va en faire un bon automate. Donc, il faut lui faire les deux choses à la fois. Et là, on voit bien l'action de Confucius sur son disciple. C'est vraiment une aventure intellectuelle. Hein. Je voudrais m'arrêter, mais je ne le puis. Hein, quand on voit tous les gens qui veulent progresser dans la vie, ben, un disciple de Confucius, lui, aimerait bien que ça s'arrête. Mais je pense que ces gens-là ont vécu une aventure extraordinaire. Hein. Mon esprit est à bout de ressources. Et voilà que mon pied trouve prise. Hein. Donc d'un coup, le gars, il ne sait vraiment plus où il en est, il a bout de ressources, et d'un coup, il se rend compte qu'il y a quelque chose sur quoi il peut s'appuyer. Et c'est comme si je me trouvais sur les hauteurs. Donc là, il écrit bien quand même cette expérience spirituelle, où il est à la fois perdu, et d'un coup, il a une forme de certitude, et d'un coup, il se rend compte qu'il est dégagé. Je veux le suivre, mais je perds ma peine. Donc là, c'est toujours le côté très, non seulement imprévisible, mais qu'il est vraiment très loin devant. Ah oui, mais quels que soient mes efforts, je n'y arrive pas. Mais quelles que soient les peines que je déploie pour ce faire, ce sera en partie en vain. À mon avis, pas totalement. Alors, une autre chose qui décrit la capacité de Confucius, et le choix qui est le sien. Et c'est une phrase qui est très importante, c'est pour ça que je l'ai même marquée en prononciation chinoise. Pratiquement tous les Chinois connaissent ça. Et ça explique le développement du confucianisme, de prodige, de force, de désordre ou d'esprit, le maître ne parlait jamais. Donc, ce sont les choses, contrairement aux autres penseurs chinois qu'il y a eu avant et qu'il y aura après, je pense à des gens comme Mao Tse ou d'autres, il y a des choses qui absolument ne passionnent pas du tout Confucius, ne l'intéressent pas, et il n'en parle jamais. Alors, ces choses, c'est quoi ? La première, qui s'appelle Guai, au mot à mot, c'est ce qui est douteux, c'est ce qui est troublant. Alors, vous comprenez, ça, c'est le miracle. C'est-à-dire, quelqu'un vous dit quelque chose, il s'est passé ça, un truc vraiment incroyable. Et donc, tout le monde, immédiatement, là, on est heureux, en général, quand on entend ce genre de choses. Ben, une personne était dans le coma, et quand il se réveille, il parle de sabot croate. Bon, un truc comme, bon, je dis un peu n'importe quoi, hein, mais à peu près ça. C'est-à-dire, la chose qu'on peut... Mais le type n'était pas sabot croate de base, hein, il n'a jamais appris cette langue. Oui, le truc complètement inexplicable, le miracle total. Il s'est passé ça, moi je peux rien dire, là, tout ce que je... etc. Eh ben, ça n'intéresse absolument pas Confucius. Voilà, vraiment pas. Parce que lui... Oui, enfin bon, c'est un homme qui a quand même une certaine expérience de la vie, donc je pense qu'il estime que souvent, et puis il y avait différents faiseurs également à son époque, comme il y en a à la nôtre, et donc il connaissait assez bien la nature humaine, je pense. Et surtout que pour lui, ce qui est important, c'est toujours de progresser en intelligence. Donc si je vous dis quelque chose, et vous êtes complètement stupéfait, les bras m'en tombent, qui l'eût cru, etc. Comment ? Non, bah vous allez voir après, hein, c'est encore plus drôle, hein, oui. Mais le truc vraiment extravagant, ça n'intéresse pas, c'est vraiment trop extravagant. Alors qu'il y a en général, les gens raffolent de ça. Hein. Vous dites le truc miraculeux, tac, 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 et tout, les gens, oh. En général, c'est jamais des choses qu'on a vues soi-même, hein, c'est des choses, c'est quelqu'un qui m'a dit que, etc. Et tout. Et donc là, pour lui, c'est vraiment des choses douteuses, profondément douteuses. Et lui, ce qui intéresse, c'est, dans ce qu'il dit avec autrui, c'est de pouvoir, à la fin, que je ressorte plus intelligent et mon interlocuteur aussi. Si je ressors complètement abasourdi et qu'on interlocuteur ne sait plus comment il s'appelle, je n'ai pas gagné, lui non plus. Le deuxième caractère des choses qui ne parlent pas, c'est la force, l'usage de la force. Il l'a constaté, il vivait dans un pays en guerre, mais c'est quelque chose qui ne l'intéresse pas. Chez les hommes, il y a une vénération de la force en général. Pas chez tous, hein, heureusement. Mais il y a... Alors, peut-être plus l'homme masculin que l'homme féminin, que la femme, mais bon, l'homme masculin à l'époque avait dans la société un rôle tout à fait prépondérant. Et donc, tout ce qui est épique, c'est-à-dire le côté titanesque de l'homme, choses comme ça, l'usage de la force. Lui-même en a fait usage à Monet quand il a été conseiller, ministre. Il a démantelé certaines places fortes. Donc il a dû le faire, et il fallait le faire, mais ce n'est pas quelque chose qu'il faisait vibrer. Il n'est pas du côté de l'usage de la force. Comment ? Je me suis, j'ai pas compris. Non. Non, non. Mais même sans être soi-même un conquérant, c'est le fait de, pareil, de te raconter enfin, tout ce qui est épique, etc. Et quand même, la force est ce qui change le réel d'un coup. Or, dans l'esprit de Confucius, il y a plutôt l'idée qu'il faut se débrouiller avec le réel et en faire quelque chose de mieux. L'autre caractère, Luan, c'est les désordres. C'est vraiment les désordres, il peut être tout ordre, hein, au niveau des sentiments, au niveau social, au niveau de tout ce que... C'est le truc qui est plutôt ordonné. Et ce qui est complètement dans le désordre, le bouleversement complet, ça ne l'intéresse pas du tout. Il n'en parle jamais. Et le dernier caractère, Shen, alors ça, j'ai traduit comment ? Les esprits. Alors ça, c'est les esprits, les divinités, les fantômes, tout ce que, on pourrait dire, le surnaturel. Ça aussi, ça n'intéresse absolument pas. Donc c'est un drôle de... Il y a peu de sages comme ça en Antiquité. Hein. Et on voit bien comment il a amené la pensée chinoise dans une forme d'humanisme et de pragmatisme. Alors, que vous disiez tout à l'heure, que c'était quelqu'un à qui on pouvait, que l'on pouvait difficilement duper, c'est quelque chose qui arrive par la suite. On parle de l'homme de bien. Ah oui, alors, il y avait toujours chez lui l'idée de devenir, ou que ses disciples deviennent des hommes de bien ou des lettrés, on disait aussi. C'est-à-dire des gens qui avaient un certain usage de la culture et de la vertu. N'est-il pas un sage, celui qui, sans présumer qu'il sera dupé ou soupçonné de mauvaise foi, a cependant l'agilité de s'en rendre compte à temps. Alors, la phrase n'est pas très simple, hein, tout parce qu'elle commence par une interro-négation. Mais le sage, donc pour le remettre dans un ordre affirmatif, est celui qui entretient avec autrui une relation où il n'est pas soupçonneux, il n'est pas en train de présumer qu'il sera dupé par autrui, ou à l'inverse dans ce qu'il dit, qu'autrui pensera qu'il est un homme de mauvaise foi, un menteur ou un homme manipulateur ou quelque chose comme ça. Mais cependant, si la chose doit se passer, c'est-à-dire qu'il est soupçonné par autrui d'être comme ça, il voit dans l'esprit, assez bien dans l'esprit d'autrui, ou qu'autrui veut le duper, il a l'agilité de s'en rendre compte à temps. Attends, c'est-à-dire avant, hein, pas après.
En fait, c'est-à-dire quoi, il est de prime abord.
Confiant, oui. Il est malin. Ouais. Enfin, malin, c'est moi qui le dis, mais enfin, il y a cette notion de l'intelligence. Oui. 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 Alors, effectivement, surtout pas paranoïaque dans son. Mais, et il est prudent par agilité. C'est pas un imprudent peureux. On pourrait dire que c'est un prudent, je sais pas, téméraire ou je sais pas quoi, mais. Donc il va vers autrui en amenant son humanité avec lui. Donc d'une manière confiante, bienveillante, sincère, etc. Mais il a fait fréquenter les hommes pour savoir un peu ce qui se passe dans leur tête. Et donc, si on souhaite le duper, ou si on ne le comprendra pas et qu'on lui prête des intentions autres que les siennes, il se rendra compte avant. En général, oui. C'est son, lui, il préfère pas se compromettre dans les mauvais coups. Ouais. C'est peut-être pour ça qu'il a eu assez peu de disciples, finalement, pendant toute une partie de sa vie, parce qu'il n'avait pas envie de s'encombrer de... Oui, oui. Mais c'est pour ça que c'est jamais idéaliste. C'est-à-dire qu'il vous dira jamais, avec les autres hommes, il faut être confiant. Il dit oui, a priori, il vaut mieux être confiant. Mais en même temps, il vaut mieux être agile aussi, en même temps qu'on est confiant. Oui, il est toujours, quand on parlait de ce que Yen Roy disait, qu'il a toujours un temps d'avance, jamais il dit il faut être comme ceci ou il faut être comme cela. Il dit on peut être comme ça, et le mieux c'est si on est comme ça, d'être ça aussi. En général, le ça aussi, ça remet tout ce qu'il y avait avant en question. Alors, un disciple parle, par exemple, un certain Zheng, et il dit. Alors ça, c'est vraiment le message confucéen dans toute sa splendeur. L'homme de bien gagne des amis par sa culture et par eux, il soutient son humanité. Eh ben, enfin, moi, ça, je trouve ça admirable. Et donc, il y a toujours l'idée de cet homme de bien, de ce lettré. Comment il se fait des amis? Eh bien, c'est par sa culture qu'il amène des gens autour de lui. Et avec ses futurs amis qu'il a amenés autour de lui, il peut développer sa propre humanité grâce à ces gens-là. Donc là, vous voyez ce côté d'interaction avec autrui. On ne dit pas qu'il gagne des amis par sa culture et qu'à la fin, ses amis l'admirent beaucoup et que lui, c'est le super chef de ses amis. On dit qu'il gagne des amis par sa culture et grâce à ses amis, il peut développer l'humanité qui est en lui. Alors, la notion de l'amitié dans le confucianisme est extrêmement importante, mais ce n'est pas une amitié... normal, c'est pas une amitié ordinaire. Si vous voulez, on voit que c'est une amitié qui se passe au niveau de la culture. C'est pas l'homme de bien ne gagne pas ses amis en les emmenant boire un coup dans un café. Si vous voulez, on a dit par exemple que Confucius a développé une forme d'amitié qui n'existait pas avant Confucius. Alors ça peut paraître bizarre parce que les amis, ça a déjà existé avant Confucius comme il y en a eu après. Mais il a développé avec les gens qui sont devenus ses amis une amitié particulière. Et moi ça m'a fait penser, si vous voulez, pour faire un parallèle avec par exemple, ce qui était au Moyen-Âge, l'amour courtois. Donc évidemment, l'amour a existé avant le Moyen-Âge et a existé après. Il y a des hommes qui ont aimé des femmes et des femmes qui ont aimé des hommes avant ces époques et après. Mais l'amour courtois, c'est un truc qui n'existait qu'à ce moment-là, quelque chose de tout à fait spécial. C'est-à-dire que des hommes qui ont une idée extrêmement haute d'une femme et qui, à cause de cette idée extrêmement haute qu'ils ont d'une femme, vont mener une vie différente de la vie, donc ils vont essayer de faire le bien, d'être justicier, tout ça, etc., et d'avoir toujours la pensée de cette femme en eux. Donc c'est une forme d'amour qui n'existait pas, surtout d'une manière, dite comme cela avant, et bon, qui après ça s'est perdu, parce que c'est quand même quelque chose qui est assez spécifique. Et donc, dans le cas de Confucius et de ses disciples, on a également une forme d'amitié qui est spécifique, je pense, qu'on pourrait appeler de l'amitié courtoise, ou une amitié qui est basée sur la culture. Alors, c'est peut-être quelque chose qui, pour nous, est un petit peu difficile à saisir. Mais l'idée qu'effectivement, on peut gagner des amis par la culture, donc il faut dire, je ne peux pas gagner d'amis simplement parce que je suis quelqu'un qui a une haute idée de moi-même, ou parce que j'ai une vie très triste, ou très drôle, et que je vais vous la raconter. Dans le truc de confucianisme, c'est pas comme ça que je vais gagner des amis. C'est-à-dire qu'il faut que je développe une certaine culture en moi, et ensuite que j'aille vers autrui. Et vis-à-vis de la manière dont cet autrui réagira, je pourrai encore plus développer l'humanité qui est en moi. Donc là, on est dans un échange qui est, je dirais, assez gagnant des deux côtés, à la fois chez le personnage principal et chez ses amis. Et en même temps, qui demande une notion de l'invention dans les relations humaines qui est tout à fait extraordinaire, parce que comment faire, parce que là, c'est des mots, mais comment faire lorsque je rencontre quelqu'un pour faire que cette rencontre soit complètement positive et intelligente, et que et lui et moi, on ait développé de l'humanité. Là, il n'y a pas de mode d'emploi, hein, il faudra le faire au fur et à mesure. Et alors justement, par exemple, la phrase qui vient après, l'homme de bien cherche l'harmonie et non la conformité, alors que l'homme de peu cherche la conformité et non l'harmonie. Oui.
J'ai une question sur le sujet, mais il semblerait que l'homme de bien ne s'écrive pas comme l'homme.
Non.
Alors quelle distinction on peut faire entre l'homme quand on l'écrit comme tu l'as dit
oui.
Et l'homme de bien.
Oui.
Oui. Donc,
oui. Oui, tout à fait. Si on prend la citation qui est en chinoise, l'homme de bien, c'est les 1, 2, les caractères 3 et 4. Hein.
Ouais.
D'accord. D'ailleurs, qu'on retrouve également dans la phrase d'au-dessus, à la place 5 et 6. Alors que ce que j'ai traduit par l'homme de peu, là par contre, c'est l'homme, hein, qui quand il est écrit à la main, je l'avais écrit tout à l'heure, il se présente comme ça. Vous vous rappelez, c'est l'homme qui marche. Alors que quand il est écrit, comme vous voyez ici, en imprimerie, il est plus, il est plus géométrique. Voilà, exactement. Donc, ici, oui. Alors, non, alors ce que je traduis par l'homme de bien, qu'on traduit également par le gentilhomme, dans le sens un peu ancien du terme. Kunshu, on dit en chinois. Je ne me rappelle plus tellement l'étymologie, hein, parce que c'est comme ça. Tout ça n'a pas beaucoup de sens, hein, ça signifie enfant ou monsieur, hein, suivant le cas, comme on dit par exemple, Confucius appelait Kung Su, Lao Su pour le pointeur du taoïsme, ça veut dire maître Lao ou maître King, et donc ça veut dire enfant, monsieur, souvent traduit par maître. Le premier caractère désigne une sorte de noble, ça c'est pas le terme, on dirait plutôt gentilhomme ou quelque chose comme ça.
Un aristocrate ?
Oui, mais un aristocrate de la culture, du sentiment, de l'action. Pas un aristocrate forcément de l'innocence. C'est quelqu'un qui est à la fois... Ça, c'est la main. Hein, c'est la main droite ou gauche, je n'en ai plus. Qui est à la fois la main, c'est-à-dire qui est à la fois l'action, le savoir-faire, et qui est à la fois la bouche, et qui a également la parole. C'est un homme qui peut allier la parole et l'action. Je pourrais bosser l'étymologie, hein, là je la cite de mémoire. Mais donc ce personnage est l'idéal du confucianisme, il y a ce personnage-là qui est idéal, et puis il y a aussi souvent ce caractère-là, qui signifie un lettré. Et donc, ce personnage, il est à la recherche de l'harmonie, mais il ne cherche pas la conformité. Parce qu'on peut penser qu'il y a une forme d'harmonie, c'est simplement tout le monde va dans le même sens. Ça, c'est pas l'harmonie, c'est la conformité. Alors que l'homme de peu, alors l'homme de peu, ça c'est terrible, mais dans le grand confucianisme, on l'appelle, mais même après, le mot existe encore en chinois moderne, le xiaolen. Xiaolen. Xiao, c'est petit. Donc c'est, moi j'ai traduit l'homme de peu, ça veut bien dire ce que ça veut dire. Normalement c'est l'homme qui a une forme de petitesse en lui. Et l'homme de peu, lui, il recherche la conformité mais pas l'harmonie. En fait il ne sait même pas que l'harmonie existe. Ce qu'il croit être l'harmonie, ça s'appelle la conformité. Bon, donc vous voyez, à travers ces exemples, on voit bien un petit peu la démarche, comment Confucius... Souvent, la manière un peu, amusante dont on voit le chinois, c'est quelqu'un qui, de manière très sentencieuse, dit « Oui, mais Confucius a dit que... » Mais on voit bien que quelqu'un qui a dit des choses comme ça, l'homme de bien cherche l'harmonie, non la conformité, l'homme de peu, la conformité, non l'harmonie, il y a quelque chose qui reste. C'est-à-dire qu'effectivement, c'est des phrases qu'on peut ressortir facilement. En plus, en chinois, je veux dire, c'est vraiment bien... souvent, c'est des phrases un peu symétriques. Elles sont construites de la même manière. Alors, ce qui est étonnant aussi, je parle un peu du style qu'utilisait Confucius, c'est que c'est quelqu'un qui parle avec très peu de mots. C'est pour ça que souvent, vous voyez, en chinois, ça prend 2-3 mots, et puis en français, je mets 3-4 lignes pour dire la même chose. Mais c'est pas que je fais de la paraphrase, mais non seulement il parle avec peu de mots, mais souvent, dans les mots qu'il emploie, il y a des mots qui ne veulent pas dire grand-chose. Il y a beaucoup de « a », de « o », de « qui l'eût cru », etc. Donc, en fait, vraiment, là, on est à la base dure du langage. Une phrase également terrible, le maître dit, seul l'homme pourvu d'humanité sait aimer et sait haïr. Donc là, vous voyez à quel point on est loin d'une vision angélique, ou chrétienne, ou quelque chose comme ça. Il faut déjà arriver à avoir assez d'humanité pour savoir aimer, donc ça tout le monde dira, oui, t'es bien d'aimer. Hein. Puis il faut avoir aussi assez d'humanité pour savoir haïr. On n'est jamais dans le domaine de l'angélisme avec des penseurs comme ça. Et la preuve, la phrase qui vient après, sur laquelle je vais passer un peu rapidement, quoi donc permet de définir un lettré? Alors le lettré, là, il l'écrit comme je l'avais mis tout à l'heure, pas le mot bien, mais comme ça. Quoi donc permet de définir le lettré? Et il répond, le maître dit, tranchant, exigence et aménité définissent le lettré. Alors vous voyez que là, on a des choses qui n'ont pas du même domaine. Tranchant, exigence, mais aménité. Tranchant et exigence envers ses amis, aménité pour ses frères. Donc là, on est quand même dans ce domaine de ce qu'on appelait tout à l'heure l'amitié courtoise. C'est quelque chose où avec les amis, on discute des choses. On voit dans les dialogues qu'il y a entre Confucius et ses disciples, parfois les disciples, ils s'engueulent pas mal entre eux. Tout le monde n'est pas du même avis. C'est un truc où on peut, justement, on recherche l'harmonie, pas la conformité. Enfin, je voudrais terminer avec parce que là, je crois que j'arrive un peu au bout de mon affaire. Et justement, quelque chose au niveau de l'éthique. Alors, vous pourrez lire par la suite les autres citations que j'ai faites. Et ça aussi, ça permet de bien voir la différence avec la pensée d'ici, notamment avec la pensée chrétienne. Où il y a l'un des disciples, de mémoire je crois que c'est Zulu, qui dit « Rendre le bien pour le mal, que pensez-vous de cela ?» Et donc là on voit qu'on est tout à fait dans la thématique chrétienne qui est de tendre l'autre joue, de pardonner tes offenseurs, etc., etc. Donc « Rendre le bien pour le mal, que pensez-vous de cela ?» Alors la réponse de Confucius, encore une fois, il n'est pas du tout où on l'attend. Parce que quand on lui dit « Rendre le bien pour le mal, que pensez-vous de cela ?» il dit pas « C'est très bien ou c'est très mal ?» Il dit, et dans ce cas-là, qu'est-ce que vous rendrez pour le bien? Donc, vous voyez, bon, là, on est presque à la limite de la... C'est cette manière de complètement déstabiliser. Parce que si on va arriver à quelque chose d'absolument absurde, peut-être que je peux rendre le bien pour le mal qu'on m'a fait, puis quand on fera du bien, je rendrai du mal. Hein, si je suis vraiment fou, quoi. Mais donc il dit, rendre le bien pour le mal, que pensez-vous de cela? Et il dit, et que rendriez-vous alors pour le bien? Et là, ensuite, il y a son message qui est très, très humain et très lucide. Il faut répondre au mal par la rectitude et au bien par le bien. Et donc là, c'est quelque chose qui humainement est beaucoup plus difficile. C'est-à-dire que vis-à-vis de ceux qui veulent nous faire du bien, quoi que ce soit, il faut leur rendre leur bonté, c'est-à-dire c'est le minimum de réciprocité, etc. Mais vis-à-vis de ceux qui veulent nous faire du mal, il faut être capable de répondre par la justice, par la rectitude. Non pas œil pour œil ou dent pour dent, je dis, bon, il a voulu me faire du mal, et ben, il va s'en prendre une qui est encore plus forte, et ça lui apprendra à vivre. C'est pas ça. C'est-à-dire que vis-à-vis de ça, il faut que chacun soit capable d'exercer une forme de justice. Et pour exercer une forme de justice, il faut avoir une certaine forme de force ou de persuasion ou de quelque chose comme ça. C'est-à-dire qu'on n'est pas du tout dans un langage angélique où on vous dira, même si on fait du mal, il faut être bon avec ceux qui vous ont offensé, etc. et tout. Non, vis-à-vis de ça, c'est pas tellement personnel, c'est pas le fait qu'on m'offense ou qu'on m'offense pas. Mais si des hommes dans la société ont un comportement qui est nocif, il faut pouvoir limiter le comportement de ces hommes. Et il y a donc beaucoup d'autres endroits dans lesquels il dit, il vaut mieux, je ne me souviens plus exactement la phrase, mais en tant que, globalement, il vaut mieux faire preuve d'ingratitude envers un ami que de laisser quelqu'un qui est dangereux faire ce qu'il veut, en disant oui, mais de toute façon, on n'y peut rien. Enfin, il y a toujours, pour être lâche, il y a toujours des bonnes raisons, hein, c'est pas de problème. Hein. Mais donc, et ça, on le trouve un petit peu dans la suite aussi. Bon, je comptais m'arrêter là, mais quand il y en a, c'est tellement. Y a-t-il un mot que l'on puisse rendre pour que c'est un disciple qui demande, y a-t-il un mot que l'on puisse prendre pour fondement toute une vie durant? Et Confucius répond, ne serait-ce pas la réciprocité? Ce que tu ne souhaites pas pour toi, ne l'inflige pas à autrui. On va voir. En partie, oui. Ce qu'il faut bien voir, c'est que c'est, à mon avis, c'est corrélatif avec la phrase qu'il y a avant. Parce que dans la phrase d'avant, comment dirais-je, on est passif. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui me font du bien, il y a des gens qui me font du mal. Moi, vous voyez ce que je veux dire, je fais rien, il y a des choses qui m'arrivent. D'accord? Donc il y a des gens qui se comportent bien à mon égard et d'autres gens qui se comportent moins bien, ou même plus mal. D'accord? Et là, c'est pas, là, on passe de l'autre côté, c'est-à-dire que je deviens actif. C'est-à-dire que là, je ne suis plus vis-à-vis de la manière dont les gens vont se comporter vis-à-vis de moi, mais de la manière dont, avant qu'ils fassent quoi que ce soit, moi, je vais me comporter vis-à-vis d'eux. Oui, j'arrive, me voilà. Et donc, quand j'arrive vis-à-vis d'autrui, qu'est-ce que je dois faire? Est-ce que je dois, je sais pas, être sympathique avec lui parce qu'il a une bonne tête? Est-ce que je dois être agressif parce que c'est l'inverse? Est-ce que je dois, etc. Je dois me comporter en premier en voyant toujours la réciprocité. Si j'étais lui. Donc, je pense que vous avez commencé à mieux voir un peu cette personnalité tout à fait spécifique. Et je pense que c'est quelqu'un qui n'est pas du tout connu en Europe, hein, Confucius, enfin, à part pour les spécialistes, parce que justement, il n'y a pas de, on ne pourrait pas réduire son système à quelques concepts clés. Vous voyez ce que je veux dire? C'est un peu ce que disait le disciple Yen Roy, quand on croit le saisir, il est déjà plus loin que ce qu'on a cru saisir. Donc, on est toujours dans une démarche où on a du mal à l'appréhender. C'est pour ça qu'il n'y a jamais de vrai système philosophique confucéen qui a été fait. C'est plus une attitude humaine. Mais une attitude humaine qui dure depuis bien longtemps. Maintenant, ça fait... Oui. Oui. L'homme peut élargir la voix n'élargit pas l'homme. Oui. Alors, c'est une phrase d'une grande intelligence, surtout d'une grande sévérité. Parce que le concept de voix, la voix qui existe dans beaucoup de disciplines en Asie, c'est, on pourrait dire, une manière de comprendre le monde, et c'est également une pratique du monde. C'est-à-dire que je ne peux pas comprendre simplement en comprenant, mais je comprends en agissant, et au fur et à mesure, je peux être davantage dans la voix. Alors, il existe toutes sortes de voix. Je sais pas, la calligraphie, le thé, la musique, la boxe. Oui, Mais l'avoir, c'est le fait de progresser, justement, dans ces rites et dans le savoir humain qu'ils représentent. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est à la fois une discipline, mais également la manière dont on s'enrichit de cette discipline au fur et à mesure. Alors, on verra mieux le concept de voix dans le taoïsme, parce que tao, ça veut dire la voix. Mais donc, ce qu'on dit, c'est que la voix peut élargir, l'homme peut élargir la voix, mais la voix n'élargit pas l'homme. C'est-à-dire que pour Confucius, la voix, donc, c'est la pensée confucéenne. Enfin, c'est ce que lui croit transmettre, etc. Et donc, cette pensée, elle peut élargir l'homme. C'est-à-dire que l'homme peut, l'homme peut l'élargir. C'est-à-dire que l'homme peut creuser cette pensée et peut en tirer quelque chose. Mais juste, le type qui se convertirait au confucianisme, je ne sais pas bon, s'il y a des rites de conversion ou pas, ou quoi que ce soit, mais juste ça, non, c'est pas le confucianisme qui peut faire quelque chose de l'homme. Oui. C'est-à-dire que l'homme peut faire quelque chose à partir de cette doctrine, mais cette doctrine, juste comme ça, avec des gens qui la répètent ou n'importe quoi, n'est pas efficace en elle-même. C'est ce qui distingue, si vous voulez, de la pensée magique au niveau des rites. Parce que dans la pensée magique, il y a l'idée, même si je ne comprends rien, je fais des phrases, je fais des trucs, des machins, etc., le vaudou, tout ça, et il se passe des choses. C'est-à-dire que j'ai une approche manipulatoire du réel, d'accord ? Parce que je fais des choses, il se passe d'autres choses qui étaient justement celles-là que je voulais, d'accord ? Là, c'est pas du tout ça. C'est-à-dire que si, effectivement, dès que je fais des choses, il se passe d'autres choses, mais s'il n'y a pas de compréhension, s'il n'y a pas approfondissement de ma part, ça ne me rapporte rien, au bout du compte. Même j'obtiens ce que je désire, par exemple, l'exemple idiot, j'appuie sur n'importe quel appareil, télévision, enfin sur le bouton d'allumage, hein, ou ça, ou n'importe quoi, et il y a, le phénomène se passe. Mais si ça ne permet pas que je comprenne mieux ce qui se passe, ou dans cet appareil, ou dans le monde, ou dans n'importe quoi, ça ne m'élargit pas. Donc de tous les savoirs, on peut se servir des savoirs ou pour s'élargir, pour élargir la voix qu'ils représentent, ou on peut les prendre d'une manière bornée, ou je ne sais pas exactement comment dire. Oui, et dans ce cas-là, ils ne m'élargissent pas. Mais pourtant, la personne qui l'aura pris de manière bornée, il vous dira, moi je suis confucéen, ou je suis ceci, ou je suis cela, et en quelque sorte, il se définira comme ça. Et vous direz, d'accord monsieur, ça vous a servi à quoi d'être ceci ou d'être cela? Ah oui, mais moi je suis ça, hein, père en fils et tout, etc. Mais donc, il y a la manière qu'il faut que la personne, dans l'usage qu'il fait de la chose, puisse élargir cette chose, mais ce sera dans l'usage intelligent qu'il en fait. Juste quand il est au niveau de sa petite identité à lui, il dit, je suis ceci, je suis cela, mais ça élargit personne, je veux dire. De tout. De tout, le gars qui vous dit moi je suis ça, bon ben personne n'est parfait, mais bon, qu'est-ce qu'on peut dire d'autre, quoi. Oui, c'est vrai. Ah oui, ça j'avais pas parlé. Alors les confucianistes sont des spécialistes du deuil. C'est des du deuil et de tout ce qui est funèbre, c'est des grands spécialistes. Parce que ils pensent. Enfin, Confucius le disait, qu'on ne peut pas traiter du décès de ceux qui nous sont proches simplement d'un point de vue ou émotionnel, ou on fait ce qu'il faut et puis c'est bon, ou quoi que ce soit. Donc pour eux, quand on perd un être cher, donc dans Confucius, les êtres chers, ça peut être le père, la femme, etc., les enfants, bon, en général, c'est familial, ou le souverain éventuellement, c'est quelque chose qui est fondamental dans la constitution de l'individu. On ne peut pas, par exemple, il y a une phrase de Confucius où il dit, si un homme, il y a des choses qu'il n'a pas comprises dans la vie, normalement, il les comprendra quand son père mourra. C'est bizarre parce que lui, son père est mort à 3 ans, je ne sais pas, alors peut-être que c'est pour ça qu'il a commencé très tôt l'usage de la sagesse. Hein. Mais donc les confucianismes disaient qu'il faut des périodes de deuil très importantes. Par exemple, pour les parents, je crois que c'est 3 ans, éventuellement renouvelable, je ne sais pas combien de fois, enfin au moins une fois. Pour le maître aussi, quand on perd son maître, c'est quelque chose c'est au moins 3 ans. Et donc 3 ans pendant lesquels l'individu sort de la vie sociale. Souvent, il reste près de la tombe, et vit comme ça. Donc c'est vraiment du deuil, hein. C'est pas du deuil psychologique, hein. C'est du deuil rituel, mais mentalement aussi ça fait de l'effet. Hein. Et donc, mais en même temps, ils disent, on avait demandé à ce disciple qui parle là, est-ce que le deuil doit être renouvelable combien de fois, etc. Et donc lui il dit, l'idéal c'est de le faire une fois, et en une fois, mais une fois, pour les personnages importants, c'est au moins 3 ans, hein, pour les parents, comme ça, mais en une fois d'aller au bout de la douleur. Oui. C'est fait. Non. 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 Non, oui, non, entre 3 ans comme ça, c'est, à mon avis, c'est une expérience. Oui. Oui, oui. Tout à fait. Oui. Bon, il y a eu des périodes de 3 ans, il y a des périodes de 1 an également. Hein. Mais en fait, 3 ans, vraiment la période de deuil, en général, je pense que c'était les parents et le maître. Peut-être l'épouse. Non, mais c'est parce que, en quelque sorte, c'est une action qui doit être conduite. Alors nous, c'est vrai que c'est des choses qui sont extrêmement en dehors de notre manière de penser, parce que nous, on voit les choses d'une manière assez individuelle. Mais c'est une manière qui doit être... Le rite qui suit ce deuil doit être conduit, donc il y a des temps qui sont nécessaires. On pense en quelque sorte, si vous voulez, que c'est pas une expérience humaine facile. Le fait de perdre, c'est quelque chose qui est en même temps commun à tous les hommes, donc c'est pas quelque chose que je vais improviser moi dans mon coin tout seul.
Il fait variant.
Oui. On est libre de le faire ou de ne pas le faire. Hein.
Ça n'empêche pas le travail quotidien, il y a des
temps pris. Mais... Ah si, c'est ces gens-là ne travaillaient pas. Hein. Ah oui, oui.
C'est-à-dire que tout ça reste.
Oui.
Ça ressemble au analogisme des temps où est-ce que je peux se boucher.
Oui.
Non.
Et puis, non. Et puis,
oui. Mais la vie des femmes, elle n'existait plus.
Ah oui, non, mais là, bon, le conflicanisme, c'est surtout fait pour des hommes à cette époque-là. Hein. Mais en fait, l'idée, c'est quand même que dans le deuil, il y a quelque chose à comprendre. Et que j'aurais gâché. Alors, c'est un point de vue conflicant, je sais que c'est un point de vue qui est complètement différent de
plus
de
nous.
De ma vie, si lorsque j'ai perdu, par exemple, mon père ou ma mère, il y a quelque chose de fondamental que je n'ai pas compris. Donc, c'est quelque chose qui est aussi important que de naître pour eux. Le fait de perdre les gens qui, par exemple, nous ont donné la naissance, la vie. Et donc, c'est pas quelque chose que je peux pas rester avec ma peine subjective, tout seul, etc. C'est quelque chose qui arrive à tous les hommes. Donc, c'est pas un truc que je vais improviser tout seul dans mon coin. D'accord ? Il y a des rites pour ça.
Et je ne comprends pas le « et ça reste là ».
C'est-à-dire qu'on va au bout de la douleur, mais il ne faut pas devenir non plus complètement masochiste. Donc on aura fait l'expérience de la douleur ultime, mais après on ne va pas continuer. Voilà.
Une fois qu'on l'a fait, c'est ça. Ça
oui.
On ne pense pas que le mort est dans une autre vie, etc. Ça s'arrête là.
Ah non, ça s'arrête là pour soi. Oui, c'est la douleur qui s'arrête là. Or ça c'est gentil qui n'intéresse pas Confucius. Hein. C'est ce qu'on a dit tout à l'heure, c'est des choses suprêmes sur elle, c'est pas son... Oui, alors, la fois prochaine, je vous en prie, oui c'est moi qui suis un peu long, mais donc la fois prochaine, je crois que c'est le 3 mars, et ce sera le taoïsme. Donc, le 3 mars, donc exactement dans un mois.
Et après, c'est
oui.
Groupé en deux.
Oui.
De la même façon.
Oui.
Et d'autre part, je vais vous poser une question.
Oui.
Il y a 3 ans environ,
oui.
Il y a eu une exposition.
Oui, 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 très très belle.
Mais je l'ai pas
vu. Moi, je l'ai vu rapidement.
Et oui. Alors,
dans quel sens il y avait beaucoup de... Parce que vous voyez, le confucianisme a beaucoup influencé l'art chinois, et donc il y avait des choses un peu comme les vues que j'ai passées, toutes sortes de vieilles vues de Confucius. Oui, 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 c'est vraiment une exposition de musée. Hein. Mm-hmm. Beaucoup de calligraphie aussi, si je me souviens pas juste. Oui. Et donc, si vous êtes d'accord, on se retrouve le 3 mars, donc exactement dans 4 semaines, vu que le mois de février compte 28 jours. Et Et là, donc, on essaiera de voir un peu de la même manière un autre courant qui était très différent du confucianisme, qui est venu un peu après, qui s'appelle le taoïsme.
La voix.
Oui.
On en a
parlé des rites,
à travers ça, parce que là, les rites, c'est quoi? C'est un art, c'est une
Oui. C'est un ensemble d'usages, d'usages codifiés, on pourrait dire c'est un ensemble d'usages codifiés qui permettent théoriquement de choisir pour chaque moment la parole, l'attitude la plus adaptée. C'est une sorte de manuel du savoir-vivre, mais qui demande beaucoup de réflexion. Alors ça c'est la voie, c'est-à-dire que les rites permettent de nous établir dans la voie et l'intelligence et la culture de déployer ces voies. Merci.